7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On va gagner en âge et qui sait, en sagesse aujourd'hui.
Bonjour grand-père, bonjour grand-mère.
Quel rôle jouent les grands-parents dans nos vies? Présence affectueuse, parfois babysitter, confident de leurs petits-enfants, voire modèle. En quoi sont-ils le socle de leur famille? Comment peuvent-ils être présents sans se montrer non plus trop intrusifs, sans faire de l'ombre aux parents? Et nous devenons grands-parents de plus en plus jeunes. En France, en moyenne, c'est à 56 ans que l'on endosse le costume de papy et à 54 ans que l'on commence à se faire appeler mamie. Bonjour Béatrice Copper-Royer.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et vous avez coécrit le livre « Grands-parents ». Le maillon fort. Oui. À vos côtés, Pierre Antilogus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous publiez quant à vous le guide du jeune grand-père chez Albin Michel et pour vous, vous l'écrivez Le grand-père et l'avenir de l'homme, on y reviendra. Et en face de vous, Armel Le Bigomaco, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez quant à vous l'école des grands-parents européens. Et oui, être grand-parent, ça s'apprend, après tout on ne choisit pas de le devenir. Les voisins, les voisines, on n'attend plus que vous. Que vous ont apporté vos grands-parents dans votre vie? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous vécu auprès d'eux? C'est le moment de leur rendre hommage. Et puis, si vous vous apprêtez à passer ce cap, hein, ou si vous êtes déjà grand-mère, grand-père, on vous attend aussi pour partager votre expérience au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. On vous attend aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Et sur Facebook, vous êtes déjà nombreux à raconter vos aînés. Brejnev se confie depuis Brazzaville. J'ai passé mon enfance aux côtés de ma grand-mère, Antoinette. Elle m'a donné toute son affection et le courage aussi d'affronter les difficultés. Elle était pour moi une vraie bibliothèque. En fait, les grands-parents sont pour moi l'école dans laquelle j'ai beaucoup appris. Osana nous écrit à lui depuis N'Djamena au Tchad. Mes grands-parents représentent tout dans ma vie. Je m'inspire de leur sagesse. Ils sont comme mes conseillers. Et si je rencontre un problème dans ma vie, je cours vers eux et je reviens toujours avec des solutions. Et j'aimerais aussi vous lire le message de Tendry, une voisine qui est à Madagascar. Pour moi, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses que mon grand-père m'a racontées, dont je me souviens encore et qui me servent de repère, alors que cela date hein, déjà, j'étais très jeune à l'époque. Et puis, c'est vraiment plus intéressant quand ce sont eux qui racontent leur expérience, leur époque, l'histoire en fait. Là, on arrive à retenir et c'est tout sauf ennuyeux.
Grands-parents, c'est extraordinaire parce que ce qu'on n'a pas pu faire avec les enfants parce qu'on a travaillé, on se retrouve à faire plein de choses avec les petits-enfants.
Ah ouais, moi, si j'avais pas de petits-enfants, si j'étais pas grand-mère, je crois que j'en aurais adopté. Ah oui, non, je trouve que c'est pas possible, une vie sans enfants.
Tes enfants, je les adore. Quand tu viens à la maison, ça fait l'ambiance.
Tes enfants, tu dois leur montrer la vie. Tu dois leur faire une éducation. Or, tes petits-enfants, tu n'as pas besoin de tout ça. Ils ont ses parents pour le faire. Toi, tu es là juste pour le plaisir. Des fringues, des gâteaux, des jouets, des livres. Je suis là pour ça, pour faire des tours de manège, pour jouer à la voiture, pour donner le bain, pour se mettre à trois dans la salle de bain, ils mettent de l'eau partout. C'est ça que j'aime. Moi, j'ai hâte d'avoir mes 60 ans et mes petits-enfants de 17-18 ans et qu'on sort ensemble. Quoi. Je dis à boîte, peut-être pas, mais voilà. On peut sortir, on peut faire des soirées ensemble, oui, bien sûr.
Puis on a quand même pas mal de contacts avec même les aînés. Ils nous appellent assez souvent et on peut discuter avec eux. Donc
vous voyez, hier c'était son anniversaire. Tous les enfants ont appelé les uns après les autres. Mais je pense qu'ils ont besoin de nous comme nous on a besoin d'eux. Qu'on a besoin de savoir s'ils n'ont pas trop de soucis. On n'a pas besoin d'eux matériellement ni tout ça pour le moment.
Mes petits-enfants, quand ils me voient, je me cache derrière la porte comme ça. Et mon fils, il dit, va voir qu'il est derrière la porte. Quand il me voit, mais il crie, mamie, 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 mamie. Je dis non, voyez, voyez, voyez. Il me fait des bisous, il me fait des bisous. Mais c'est hallucinant. Je suis brésilienne, donc voyez, ça veut dire de câlin, petite grand-mère en fait. Et comme dit ma fille, c'est vrai, tu es l'équilibre. Ils ont besoin de ça, de savoir papi, mamie, maman et papa. Voilà. Ce monde pour eux, c'est très important. Ça me fait rire, mais en même temps, c'est émouvant, si tu veux, parce que je me dis, il me connaît à peine, en fait. Tu vois, il me connaît à peine. Comme ça, ça fait qu'il a autant d'amour, autant de feeling comme ça, quoi, de courir dans mes bras et de me prendre. J'ai des copines qui disent, Simone va sortir ce soir. Je dis, c'est même pas pensable, les filles. J'ai mon petit-fils d'abord.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
paroles de grands-parents recueillies par Alexandra Sirgan. Que vous inspire-t-elle ces paroles, Béatrice Copperoni?
Plein de choses, parce que c'est très varié. D'une part, j'ai entendu « on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous », et je trouve que c'est très très vrai, parce que c'est vraiment un échange, hein, un lien très singulier qui se construit dans l'échange. Et puis... je trouve aussi que ils ont exprimé le refuge qu'ils peuvent être à certains moments et surtout cette histoire de disponibilité de temps passé. Les enfants vivent souvent dans des vies assez trépidantes avec leurs parents et ils se réjouissent beaucoup de retrouver un peu de calme et leurs grands-parents leur donnent ce temps plus tranquille. Et puis il y a une dernière chose, c'est que quelqu'un a dit c'est étonnant, cet attachement qui peut naître. Et c'est vrai que je trouve que c'est tout à fait surprenant de voir à quel point un tout petit comme ça peut s'attacher
Et on ne s'attend pas forcément à ressentir
on ne s'y attend pas.
Autant d'amour.
Et je pense que ça passe par le désir des parents, mais que c'est complètement inconscient. Et moi, je l'ai ressenti très fort à la naissance de mon premier petit-fils, où je me disais, mais c'est incroyable comme cet enfant m'aime et comme je l'aime. Et je pense que ça passe par le désir des parents.
Alors, le rôle des grands-parents a évolué au fil des décennies. De ceux qu'on écoute, ils sont devenus ceux qui écoutent. On est rarement dans une relation hiérarchique, Armel Le Bigomaco. Ce rôle a changé?
Le rôle a changé, oui, j'entendais dire les grands-parents sont très disponibles, les grands-parents sont très actifs aussi. Hein, et donc, quand ils donnent, d'ailleurs les médias les appellent les chic-ouf, les grands-parents chic-ouf, chic, les petits-enfants arrivent, ouf, les petits-enfants repartent. Je dirais que c'est un peu plus sophistiqué que ça ne l'était avant, parce que à la fois les grands-parents ont beaucoup d'activités, ils souhaitent avoir cette relation dont on vient de parler qui est absolument magique, qu'ils n'ont pas toujours, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans cette émission, quand ils sont coupés de leurs petits-enfants, mais en tout cas, clairement, ils sont très sollicités par nos enfants et par leurs enfants, et on le souhaite parce que c'est grâce à ça qu'on introduit cette liaison. Je dirais que c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, honnêtement, les grands-parents, ils doivent aussi rester à leur place. Mmh. Hein, ils transmettent sous contrôle et sous condition.
Absolument.
Donc, c'est pour ça qu'on a cette école des grands-parents européens, parce qu'il faut vraiment apprendre
à rester à sa place,
donner quand il faut donner, ne pas trop être intrusif quand il ne faut pas être intrusif, ouais. Accepter d'attendre les dates des vacances scolaires,
c'est ça
par
qui
exemple,
a changé,
sans savoir si on va les avoir ou pas. C'est ça qui a
c'est
changé.
C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que les petits-enfants sont introduits auprès de leurs grands-parents sur le mode que souhaitent leurs parents.
Ce sont les
C'est-à-dire que ce sont les parents qui
décider.
Donnent vraiment la tonalité du lien et qui vont être dans l'exigence, parfois dans trop d'exigences. Enfin, on en reparlera.
On en reparlera sûrement.
Pierre Antilogus, vous décrivez plusieurs profils de jeunes grands-pères. Alors par exemple, j'aime bien celui-là, le grand-père missif, avec ses jolis jeux de mots. Oui. Celui qui laisse tout passer ou presque. On a aussi le DAB, le distributeur automatique de billets, celui qui donne de l'argent sans compter. Et puis il y a aussi des grands-pères originaux. Voilà, chacun va définir.
Oui, parce qu'il y a des grands-pères qui ont des... On parle beaucoup de transmission. Moi, ce qui m'a frappé dans tous les témoignages que j'ai entendus, c'est ce qui était exprimé, c'est cette immense tendresse. Et là, il y a une sorte de mystère. Je ne sais pas si les autres... si c'est le sentiment que j'ai est très partagé, mais quand j'ai eu des enfants, ça m'a paru normal. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce que j'étais davantage pris dans les exigences du travail, de la vie? Je ne crois pas, je n'ai jamais bossé autant qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de maturité? Ça, je le pense. Mes enfants, leur naissance m'a paru normale. Mes petits-enfants, ça m'a paru merveilleux. Et ce côté merveilleux de la vie, je crois qu'on ne peut le ressentir qu'à partir d'un certain âge. Donc, j'ai pas du tout répondu à votre question, je m'en excuse.
C'est pas grave.
Mais il peut arriver dans une famille, pour des raisons ethniques, géographiques, qu'on ait des bagages spécifiques à transmettre et qui ont été un peu perdus par la génération suivante. Ça peut être des choses religieuses, dans les familles juives ou musulmanes, ça peut être même des choses régionales. Par exemple, des Bretons, des Auvergnats, il y a des gens qui estiment avoir beaucoup de choses à faire passer.
Et puis chacun a sa personnalité.
Et chacun a sa façon. Oui. Et le grand permissif, c'est un jeu de mots, hein, mais y avait aussi des permissifs, on en a connu pas mal, moi j'en ai connu beaucoup.
On vous donne la parole, les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes en ligne avec Fabrice à Lubumbashi. Bonjour Fabrice.
Bonjour madame, bonjour voisine, bonjour voisin d'ici et d'ailleurs.
On vous écoute, je crois que vous voulez rendre hommage à votre grand-mère maternelle.
Effectivement, madame. Ma grand-mère, c'est vraiment quelqu'un de spécial pour moi parce que j'ai grandi à ses côtés. Elle m'a toujours appris à avoir confiance dans n'importe quelle circonstance. Elle m'a appris beaucoup de choses, entre autres le respect, comment aimer le prochain, comment venir en aide aux autres. Grâce à elle, j'ai vraiment appris aussi à considérer les personnes de 30e âge qui sont vraiment des personnes vulnérables dans notre société. Elle m'a apporté la joie, le bonheur de vivre, d'aimer et surtout de se faire aimer aussi. C'est vraiment un truc d'excellent d'avoir vécu avec à ses côtés, donc à ses côtés. Grâce à ce qu'elle m'a apporté dans la vie, je ne regrette même pas de ne pas avoir vécu avec mes autres grands-parents qui sont malheureusement dans le délai. Vraiment, c'est quelqu'un de formidable.
Et aujourd'hui, vous ne vivez plus dans la même ville qu'elle ? Mais vous gardez un lien avec elle. Aujourd'hui, vous ne vivez plus avec elle.
Oui, oui, de temps en temps, je cause avec elle, malgré que nous sommes maintenant dans deux villes différentes. Bon, c'est à cause des études que je me suis un peu détaché d'elle. Mais nous sommes toujours en contact avec elle de temps en temps. Je ne peux pas oublier quelle personne, madame.
Merci, merci beaucoup Fabrice pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez réagir, Béatrice Copain-Royer ?
Mais ce que je trouve aussi merveilleux, c'est que le lien se prolonge à l'âge adulte et que quand on a la chance d'être un grand-parent, un grand-père ou une grand-mère qui a des petits-enfants adultes, on a justement cette formidable découverte qui vous maintiennent dans la vie, qui vous font découvrir leur univers. Et là, on est vraiment dans un échange très, très enrichissant. Pour les grands-parents.
Armelle Le Bigot.
Je rebondis sur quelque chose que j'ai entendu, que j'ai trouvé adorable, de Fabrice qui parlait de ça, de troisième âge comme une génération fragile. C'est vrai que nous, on porte avec. Mais il y a cette fragilité qui fait qu'on retrouve nos petits-enfants. C'est-à-dire que je suis convaincue que nous, il faut qu'on réapprenne à vivre notre vieillesse.
Oui.
C'est-à-dire. Et vous disiez tout à l'heure, moi j'étais un peur, je ne me suis pas posé de questions. Mais en tant que grand-père, je trouve les choses magiques.
Oui.
Et je dois dire que ça me frappe à l'école des grands-parents. On a, nous, grands-parents, on a nous réinventé quelque chose et on se retrouve un peu dans la fragilité de nos enfants et de nos ados. On est proche des ados. Il ne faut pas que les grands-parents baissent les bras parce qu'avec les ados, on peut se réinventer ensemble. Il faut s'inventer.
Et puis pour les adolescents, justement, qui ont besoin de distance avec leurs parents, je trouve que vraiment,
absolument.
Et ça, ils le disent beaucoup, beaucoup en consultation, ils parlent beaucoup de leurs grands-parents parce que la proximité avec leurs parents les inquiète, leur fait peur. Ils ont juste envie de les mettre à distance. Et les grands-parents sont quand même une oreille bienveillante.
Et on se confie plus facilement, notamment sur ces histoires de cœur.
Ils ne sont pas menaçants, si vous voulez. Ils ne sont pas menaçants comme les parents peuvent l'être dans la tête d'un adolescent.
Ils sont moins intrusifs par nature. Et il y a aussi une sorte de complicité qui s'établit. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est qu'au fond, avoir un petit enfant, c'est l'autorisation de retomber soi-même un peu en enfance. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti. Il y a des tas de choses que je ne faisais plus. Qu'idiot, aller au zoo, aller au cirque.
Ça vous rajeunit.
Aujourd'hui, j'ai à nouveau la possibilité de le faire.
Mais en retrouvant les émotions,
mais
c'est ça qu'on dit. On ne le fait
exactement.
Pas pour dire on va faire, on va se forcer à faire.
Les petits-enfants nous apportent une seconde jeunesse. Ça, c'est remarquable.
Et c'est une relation aussi plus simple, peut-être, que celle qui unit un parent à son enfant. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de souci d'éducation, de responsabilité par rapport à ça.
Je pense que le souci éducatif, qui est quand même très très fort dans la tête de tous les parents, et en plus dans la tête des parents qui ont plein de choses à faire, le travail, leur vie amoureuse et la gestion au quotidien de leurs enfants. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une certaine tension dans les familles aujourd'hui. En plus, les parents aujourd'hui veulent très 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 bien faire partout. Donc ils se fatiguent. Les grands-parents, évidemment, ne sont pas dans ces enjeux-là. Donc ils sont beaucoup plus détendus.
Alors on va donner la parole à un voisin, Richard, à Libreville, au Gabon. Bonjour Richard.
Oui, bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Vous voulez nous parler de votre grand-père ? On vous écoute.
Oui, mon grand-père, c'est mon héros. C'est mon héros, c'est mon livre vivant. C'est quelqu'un qui m'a fortement marqué. Parce que pour lui, il était toujours le numéro un. Le numéro un à l'école, le premier de sa classe, qui avait les bonnes moyennes, qui avait toujours la bonne femme, le meilleur au travail. Et c'est avec ça que j'ai grandi, c'est quelqu'un de fort, qui chaque fois il m'expliquait toujours ses histoires de chasse nocturne. Enfin, quelqu'un en un mot qui me faisait voyager à travers ses paroles. Il faisait voyager vraiment à travers ses paroles. Et quelqu'un de curieux, vraiment de curieux. ça m'a envie de protéger, c'est un peu surprenant, mais bon.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, par exemple, votre grand-père ?
Bon, moi, il m'a appris comment faire le choix d'une bonne femme.
Le choix d'une bonne femme,
il faut... il faut regarder à travers la famille. Il m'a appris comment ça se passe une chasse nocturne la nuit au filet.
Ah, la chasse nocturne, c'est ce qu'il vous a appris.
Oui, oui.
Et vous-même, vous l'écriviez, hein, vous voudriez voir grandir vos futurs petits-fils. Alors, vous n'êtes pas encore grand-père, mais pour vous, vous voudrez aussi jouer ce rôle-là.
Oui, oui, je veux quand même le transmettre, parce que il y a cette chaleur-là, que moi, je le ferai, que j'ai envie également de la voir, que mes petits-enfants me l'offrent en retour.
Merci beaucoup, Richard, pour ce témoignage.
Ce qu'il dit, Richard, aussi, c'est, et je trouve ça intéressant, c'est la notion de respect. C'est quelqu'un qui respecte son grand-père et en dehors de la
ce héros,
voilà.
Il y a une vraie admiration.
Oui, absolument, il y a une admiration énorme. Et le respect, j'ai souvent entendu des adolescents me parler du respect qu'ils portaient à leurs grands-parents. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bon pour eux d'avoir ce sentiment-là. Parfois, leurs parents leur donnent à voir des comportements qui sont qui les ébranlent un peu et qui les font tomber de leur piédestal, et le respect qu'ils peuvent avoir pour des grands-parents, je trouve ça intéressant.
Les voisins, les voisines, vous restez avec nous et vous continuez de nous appeler, surtout au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un instant.
Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim. Elle peut vivre 6 mois sans mettre le pied dans un magasin, parce que c'est pas donné. Un franc est un franc, même si tu changes la monnaie. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. À l'âge où je goûtais mon premier McFleuridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. À l'âge où j'ai eu mon premier scooter, mes grands-parents plongeaient dans un ravin quand ils entendaient un réacteur. Ma grand-mère a le même téléphone que ton dealer, avec son numéro scotché dessus, même si elle connaît déjà par cœur. Mon grand-père, il roule les R, il a l'accent de son patelin, et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mon grand-père a construit sa cave à la main, il m'a déjà mis des grandes tartes en me disant fais pas le malin, et il a des doigts, c'est des bites. À force d'y planter des clous, des hameçons, des agrafes et toutes sortes de câbles électriques, mon grand-père a plein de phrases philosophiques qu'il répète souvent, genre rien n'est illégal si personne n'est au courant. Mes grands-parents ont souvent l'air un peu flippants, c'est sûrement parce qu'ils connaissent plus de morts que de vivants, et aussi parce qu'ils ont potentiellement tué des gens. Chez eux, il y a suffisamment de fusils pour alimenter tout un régiment. Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles, fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au nombre de corners gagnants. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants, c'était ses bras.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers.
Le chanteur français Aurel San rend hommage à ses grands-parents sur RFI. Et vous faites de même, les voisins, sur notre page Facebook. C'est le cas de Moussa au Niger qui nous écrit : j'allais souvent passer quelques jours à Sargadji chez ma grand-mère, un petit village au sud de Niamey. Je m'y rendais avec un plaisir extrême. J'étais particulièrement choyée par elle. Je la chérissais de tout mon cœur. Rabi nous écrit, lui, depuis Kinshasa : nos grands-parents sont le témoignage vivant de nos origines. Et Vincent est, lui, à Maroua au Cameroun. Je le cite : j'ai passé mon enfance avec mes grands-parents, c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Tout a commencé quand mon père a quitté le village pour gagner sa vie. J'avais 3 ans à l'époque. Ma mère et moi, nous avons été placés sous la tutelle de mes grands-parents. Chaque soir, mon grand-père m'apprenait à compter et c'était lui qui payait mes fournitures scolaires, ma scolarité. Béatrice Copper-Royer, il arrive aussi que certains grands-parents élèvent leurs petits-enfants.
Oui, alors c'est quand même beaucoup plus rare, hein. Il faut que des circonstances familiales soient là. Alors j'en ai rencontré, évidemment qu'ils sont à ce moment-là. Moi, j'en ai rencontré dans des cas de deuil d'enfants qui avaient perdu leurs parents ou un des parents. Et à ce moment-là, les grands-parents, un des couples de grands-parents, qui était souvent les parents du parent décédé, prenaient les petits-enfants en charge. Mais là, ils se retrouvent, évidemment que c'est un des recours formidables, mais ils se retrouvent dans un rôle qui n'est plus tellement un rôle de grands-parents, puisqu'ils ont justement les soucis éducatifs qui les encombrent. Ils sont repris dans un quotidien qui n'est pas évidemment celui du grand-parent auquel on pense.
Armelle Le Bigomaco.
Oui, moi je vais vous dire, je suis très émue de ces témoignages qui émanent pour beaucoup d'entre eux, j'ai entendu, d'Afrique, de Cameroun, etc. Parce que c'est quand même... Là, on sent que ce lien, cette vie ensemble existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai, tu as raison, aujourd'hui les grands-parents ne vivent plus en proximité. Et on se rend compte à travers ces témoignages de tout ce qu'on perd quand même, en vivant chacun dans nos
bien
petites
sûr.
Cellules familiales,
mais
les
ce
grands-parents
lien reste
là,
très important.
Les parents
c'était
là,
le cas
les
dans
petits-enfants les... là. Et moi, rien que ça, je suis contente d'être venue à cette émission parce que...
Ça fait plaisir.
Mais quel modèle ! Oui, non, mais aussi, il faut s'en inspirer de ça. Il faut s'en inspirer, se rappeler que ça a existé, que ça a existé chez nous avant.
C'était le cas dans les familles
en proximité des grands-parents.
Il n'y a pas si longtemps encore.
Ce qu'il y a, c'est que maintenant, les familles sont complètement éclatées. Il y en a au bout du monde, partout. Alors, il y a un mode de communication qui s'installe, mais qui est tout à fait différent.
Oui, d'autant que de nombreux grands-parents ne sont pas encore sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes en ligne avec Manas, un voisin qui est à Abidjan. Bonjour Manas.
Bonjour RFI, bonjour Charlie.
On vous écoute Manas.
Ok. Je voulais parler de mes trois grands-mères. Je suis originaire du nord du Bénin. Mm-hmm. Donc je suis grandi auprès de mes grands-mères. C'était des sœurs.
Des petites. Donc ce sont des grandes-tantes, parce que trois grands-mères, ça ne me paraît pas possible.
C'était des grandes-mères. C'est des grandes-mères. Les petites sœurs de ma grand-mère.
Ah oui, d'accord. Ouais. Vous avez grandi auprès d'elle.
Auprès d'elle, oui. Ouais.
Et qu'est-ce qu'elles vous ont appris alors ? Qu'est-ce que vous avez appris avec elles ?
Elles nous ont appris de l'affection, de l'amour, de confiance et surtout des conseils. Elles nous donnaient des conseils. Et puis, elles nous racontaient des histoires. Parce que c'était des nomades à l'origine, avant de se sédentariser. Donc, elle nous parlait de leur déplacement d'un coin à un autre derrière le bétail. Et puis, bon, il y a l'une d'entre elles aussi, qui est de l'autre côté du Niger, à 5 km. Souvent, elle s'est déplacée, venir chez nous, là, pour nous voir.
Bref, elle faisait le déplacement à pied pour venir vous voir.
À pied, oui.
Et du coup, vous avez pu discuter avec ces grandes tantes, ces grands-mères, comme vous les appelez, de sujets peut-être plus intimes que ceux que vous abordiez avec votre mère, par exemple ?
Bon, j'ai partagé beaucoup de choses avec que je n'arrive pas à parler avec ma mère. Par exemple, il y a deux d'entre eux-mêmes, on parlait même d'intimité.
De choses intimes. Merci beaucoup Manas pour ce témoignage. Armelle Le Bigomaco, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben moi, ce que ça m'inspire, c'est effectivement ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Mais lui il cherchait ses mots pour nous dire à quel point c'était fondateur quand même. Fondateur, et quand on essaye de faire comprendre à notre société française que faut peut-être quand même réaliser que moi, j'essaye de lancer la première journée des grands-parents, personne ne m'écoute, parce qu'il y a la fête des grands-mères, mais enfin, c'est très bien quelle est l'origine de la fête des grands-mères. Donc quand on dit, posons de façon symbolique la fête des grands-parents, de Grandparents Day, pour dire voilà, on existe, mais on existe dans cette relation, on n'existe pas pour dire qu'on existe en tant que grands-parents, on existe dans cette relation. Et j'entendais la lecture, c'est vraiment quand il disait, elle nous racontait des histoires, elle nous lisait des histoires.
Ça m'a frappé,
ouais. Nous, on a créé le prix des grands-parents, l'école des grands-parents, de lecture, parce qu'on pense qu'en effet, il faut rappeler que c'est les grands-parents qui ont du temps, tu le disais, qui peuvent consacrer ô combien à ce moment magique de la lecture ensemble.
Ce qu'on, en, entendez chez lui, c'est la valeur de la transmission orale, des histoires, voilà. Des légendes, voilà. Etc. Et ça, c'est assez merveilleux.
Il y a une circonstance un peu particulière, c'est qu'on est peut-être aussi la génération, les grands-parents d'aujourd'hui, qui peuvent encore sauver le livre. Parce qu'on a lu peut-être plus que nos propres enfants. Et on a peut-être plus d'histoires à raconter à nos petits-enfants. Et on a peut-être aussi le moyen de leur communiquer le goût de la lecture plus facilement que nos propres enfants. C'est un espoir, ça. Un vœu pieux.
Alors, devenir grand-parent n'est pas toujours évident. L'art de ne pas être grand-mère, c'est le titre évocateur d'un livre signé Agathe Nathanson. Cette comédienne, qui a même été titulaire de la Comédie française, a écrit ce livre quelques années après être devenue elle-même grand-mère. Notre reporter Alice Milo l'a rencontrée.
Moi, j'attendais rien. J'étais très bien comme ça. J'avais mes deux enfants, ça me convenait parfaitement. Et j'étais pas du tout en attente d'être grand-mère. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais ma vie était bien remplie. Il y avait plein de choses qui m'occupaient. L'équilibre était parfait. Quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte, je ne me souviens plus exactement dans quel contexte on était. Je pense que c'était chez elle. Peut-être elle était assise sur la coudoir du fauteuil, moi dans le fauteuil. J'étais heureuse pour elle et je n'étais pas du tout impliquée, moi. C'est-à-dire, j'ai vraiment pensé qu'à elle. Et je pense que ça a commencé à me perturber à partir du moment où l'enfant a été là, vraiment présent, et que si on me croisait dans la rue, on pouvait dire « Ah, vous êtes la grand-mère », voilà, c'est ça qui pouvait me perturber. Que tout à coup, je devenais une grand-mère. Ce n'était pas moi qui me sentais grand-mère, mais c'était au regard des autres. Les autres me voyaient comme une grand-mère. Bah, c'est-à-dire qu'on prenait un sacré coup de vieux et que la grand-mère, c'était immédiatement l'image de la dame en gris, avec des cheveux blancs, avec des jupes bien sous le genou. Et puis, voilà, c'était l'image que ça donnait. Bon, on descend un versant de montagne qui n'est pas le plus rigolo, hein, faut bien se le dire quand même. Ma fille l'a très bien compris dès le départ que je n'allais pas être corvéable à merci, c'est-à-dire qu'on n'allait pas m'appeler à 11h du matin pour me dire « Ah, coucou, aujourd'hui on n'a personne, est-ce que tu peux venir ?» Non. Bah, parce que j'ai ma vie aussi et que je ne peux pas tout à coup. J'ai donné toute ma vie pour mes enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison que je recommence pour mes petits-enfants. Allô, oui, ma chérie, je peux te rappeler ? Alors après, quand le bébé est né, donc ben, je trouvais ça effectivement très très mignon. Et c'est petit à petit, si vous voulez, que je me suis investie et que j'ai eu envie de faire partie de la vie de cet enfant. C'est-à-dire de beaucoup le voir, de beaucoup m'en occuper si je pouvais et d'être très présente dans sa vie si on m'en laissait l'opportunité.
Mais aujourd'hui, vous vous en occupez à quel point en fait ?
Je m'en occupe le mercredi et quand ils étaient plus jeunes, assez fréquemment le week-end. Et je prends la moitié de toutes les vacances.
Comment ils vous appellent, vos petits-enfants ?
Agathe. Ils m'appellent par mon prénom, parce que j'ai dit, alors évidemment, comme tous les parents, quand ma fille a été enceinte, elle a dit, alors, comment elle va t'appeler ? Chouchoute, Mamoun, Ninoune, Toutoune, enfin que sais-je. J'ai dit non, elle va m'appeler Agathe, parce que je m'appelle Agathe, je vais voir pourquoi je changerai de nom, parce que je deviens grand-mère. Donc ils m'appellent Agathe et ça pose zéro problème.
Vous n'aviez pas envie d'être ni mamie, ni mémé ?
Ah non ! Mais jamais être avec eux, et jamais être avec eux, et jamais être leur grand-mère.
Donc, quelle grand-mère vous êtes aujourd'hui ?
J'essaie d'abord d'être une grand-mère joyeuse, gaie, qui voudrait que la vie soit comme une grosse bulle de savon, comme une grosse barbe à papa, quoi. Qu'il soit quelque chose de très léger et très sucré. Il y a aussi des moments d'ennui, oui. Ça serait dire tout le temps, ah non, c'est super, super. Non, quand vous êtes là, que vous attendez pendant une heure qu'elle fasse la chorale, puis après vous attendez pendant une heure qu'elle fasse sa danse. Encore la danse, j'adore, donc je la regarde, ça va. Quand vous passez des après-midi entières assises sur un banc de square pendant qu'ils font des pâtés ou pendant qu'ils jouent à l'araignée ou je ne sais quoi, oui, c'est ennuyeux. Oui. Quand on passe tout un mercredi avec les enfants, donc c'est un moment heureux, joyeux, de complicité, de connivence et tout. À 6h30 du soir, on les ramène. Hop, le au revoir est expédié en 3 minutes parce que c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure du bain, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure du cela. Donc on vous dit quasiment au revoir sur le pas de la porte et hop, vous partez. Vous êtes comme un livreur de pizza qui donne sa pizza et puis hop, ça y est, sauf qu'on n'a pas le pourboire, on n'a pas le scooter et on n'a plus la jeunesse. Mais on est comme un livreur de pizza qui dépose le paquet et qui vite s'en va parce que voilà, on n'a plus sa place. Donc on s'investit, on donne énormément, voilà, et finalement, ça peut créer des petites douleurs. Alors moi, ce que je pense profondément, c'est qu'on tisse tous ces liens comme ça, de mercredi en mercredi, de vacances en vacances, de petit week-end en petit week-end, et qu'un jour, effectivement, tous ces petits liens créés feront quelque chose de très très fort. Le nombre de personnes que j'entends dire « Ah, moi j'adorais ma grand-mère » ou « Ah, moi j'aimais tellement ma grand-mère », ben voilà, j'espère qu'un jour ils diront « Ah là là, j'aimais tellement ma grand-mère ».
Armel Le Bigoma, que je vous ai vu réagir.
Oui, oui, non, là, j'ai réagi. J'ai réagi par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, les chicoufles. Là, c'est vraiment l'illustration type des chicoufles. Mais alors, pousser encore plus loin. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que je donne, et puis on me laisse sur le pas de la porte, etc.
Ben, une vraie frustration.
C'est ça la construction d'une histoire en commun. C'est que je pense que c'est tous ces moments donnés, qui sont aussi des moments où on reçoit énormément. Hein. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu ce qu'on recevait, parce qu'elle dit oh, je ne comprends pas, moi, les jeunes qui disent j'ai adoré ma grand-mère. Ben oui, mais il faut savoir donner pour recevoir. Je pense que les grands-parents sont quand même bien placés aujourd'hui pour dire. Bah, on donne, et puis quand on reçoit, et on reçoit beaucoup, c'est magique, voilà, là aussi
bien
c'est magique.
Bien sûr,
le lien, il se construit tous les jours.
Il y a notamment un sujet important, c'est celui de l'ingratitude des parents, telle qu'on peut la ressentir.
Non, moi, je pense pas qu'il y ait une ingratitude des parents, simplement, on peut dire qu'il y a une espèce de rivalité de pouvoir qui peut exister parfois. Ouais. Mais le rôle des grands-parents, c'est pas de devenir des parents de substitution, c'est précisément de devenir des anti-parents. C'est-à-dire qu'avec les petits-enfants, on leur désapprend certains trucs. On s'amuse, on joue à aller ensemble contre l'autorité des parents. Il ne faut pas que ça devienne non plus un conflit familial.
C'est ce qui fait la difficulté quand même. Hein.
Et c'est ce qui fait la complicité. C'est ce qui fait aussi.
La difficulté avec la génération du milieu.
Oui, oui, oui.
Il faut savoir rester à sa place. Et je crois, contrairement peut-être à Agathe, puisque j'ai entendu qu'elle s'appelait Agathe, savoir qui on est. Et voilà, on est grand-mère, grand-père. On n'est ni parents, ni copains, ni amis. On a une place, on est sur une autre place, une marge générationnelle, et c'est très bien comme ça.
On parle des grands-parents ou des anti-parents, c'est selon, sur RFI.
7 milliards de voisins,
et la planète se barre.
Éloge à nos grands-parents aujourd'hui. Quel rôle pour eux dans la famille et dans nos vies? Que faire en cas de conflit? Car il peut y en avoir. À l'heure des familles recomposées, des vies actives très remplies, ce chiffre, notre planète compte 960 millions de personnes de plus de 60 ans. On n'est pas loin du milliard et ça fait beaucoup de voisins, potentiellement grands-parents, avec nous autour de ce plateau. Pour en parler, Armel Le Bigot-Maco, présidente de l'École des grands-parents européens, la psychologue Béatrice Copper-Royer qui publie chez Albin Michel le livre « Grands-parents, le maillon fort » et Pierre Antilogus, venu avec un manuel de survie, le guide du jeune grand-père. Alors, on a commencé à aborder cette question des tensions dans la famille. Quels peuvent être les conflits autour des grands-parents, Béatrice Copper-Royer?
Les conflits autour des grands-parents peuvent être des conflits d'autorité. Hein. Il peut y avoir effectivement, et on le voit quand même assez souvent, une grande défiance des parents qui répugnent beaucoup d'ailleurs à confier leurs enfants à qui que ce soit parce qu'ils sont dans une espèce d'angoisse sécuritaire, surtout avec les petits, qui est très 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 forte. Donc ils confient leurs enfants avec des listes et des modes d'emploi comme si on ne savait pas du tout faire. Donc il peut y avoir une certaine tension autour de ça, mais qui sont des tensions qui sont quand même assez légères et réversibles. Justement, si les grands-parents mettent un peu un mouchoir sur leur énervement et qu'ils se disent que ça va passer, que c'est une anxiété ponctuelle, il peut y avoir des tensions plus graves, qui sont des tensions à ce moment-là de rivalité. On voit ça, alors classiquement, on a tous en tête la rivalité belle-main-belle-fille qui ne peuvent pas se supporter et qui du coup, la belle-fille répugne à confier ses enfants à sa belle-mère et ça crée beaucoup de souffrance et ça existe encore.
Peut aussi reprocher à ses parents de s'occuper plus des enfants de son frère, par exemple, ou de sa sœur.
Alors se rejouent aussi les rivalités entre frères et sœurs et donc des histoires de préférence qui sont très subjectives et qui ne sont pas toujours objectivement vraies, mais qui sont en tous les cas ressenties comme telles.
Armel Le Bigot-Maco.
Oui, alors là, je rebondis complètement, puisque l'objectif, la création de l'École des grands-parents européens au départ, c'était de répondre à ces grands-parents qui étaient coupés de leurs petits-enfants du fait de ces nouvelles générations de parents, donc du fait de divorce, tu évoquais les conflits belle-mère, belle-fille, mais ça va au-delà de ça, hein, au moment d'un divorce de la génération du milieu, des parents, les grands-parents payent souvent les pots cassés. Et cette rupture-là, elle est terrible, parce que le réflexe qu'avaient les grands-parents, c'était de dire j'ai le droit de voir mes petits-enfants. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Si la porte est déjà à moitié fermée, acter en justice contre ses enfants, ça met les petits-enfants dans un conflit de loyauté épouvantable, arbitré entre les parents et les grands-parents. Donc, c'est terrible. Donc, nous proposons des médiations, des psychologues qui interviennent pour essayer de renouer le lien et pour essayer de décentrer aussi les grands-parents sur cette obsession « je ne vois plus mes petits-enfants » et on leur dit « il y a tellement de petits-enfants qui aimeraient avoir des grands-parents, faites autre chose, allez dans les écoles maternelles, tout ce qu'on leur propose comme activité pour se justifier aussi en tant que grands-parents. »
Autre sujet qui peut être source de tension, les règles, les bonnes manières, notamment à table. Chez les grands-parents, les règles peuvent être différentes de celles de la maison.
Oui, on n'a pas forcément les mêmes. Et même pour la nourriture. Tout à l'heure, vous parliez de la liste des recommandations que les parents... C'est vrai que ça existe, c'est affreux. C'est pas forcément l'expression d'une méfiance, mais c'est aussi, ça remet en perspective les liens de trois générations, du coup. Puisque y a un reproche qui existe chez les enfants aussi, c'est de dire, finalement, vous nous éleviez beaucoup moins bien que ça, au fond. Vous êtes beaucoup plus sympa avec les petits-enfants que vous l'étiez avec nous-mêmes. Alors nous, on se récrit, les parents, mais pas du tout, on était sympa avec vous. Et ils vous ressortent des anecdotes, des trucs incroyables que vous aviez oublié complètement. Comment, tel jour, au manège, vous l'aviez enlevé de l'avion, elle se débattait, ça criait, tout le monde. Et
on des vous vieux dit, souvenirs sur
oui, les... voilà, et avec les petits-enfants, voilà, vous êtes finalement des meilleurs parents avec vos petits-enfants que vous l'aviez été avec nous. Bon, il y a énormément de mauvaise foi. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise ça, mes deux filles me l'ont dit d'ailleurs.
Mais sur les manières, on peut aussi leur transmettre, parce que c'est vrai que par exemple la tenue à table, qui quand même pose problème, parce que souvent les enfants déjeunent à la cantine, de façon très majoritaire, et puis le soir, les repas avec leurs parents ne sont pas toujours très ordonnés. Parfois, ils déjeunent, ils dînent avant, etc. Et donc, ils arrivent, et on peut avoir envie qu'ils se tiennent à peu près correctement à table, qu'ils ne se lèvent pas trop toutes les deux secondes pour aller voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Et au fond, c'est pas mal parce qu'ils se rendent compte qu'il y a aussi une autre manière d'être et que les grands-parents peuvent avoir des petites exigences qui ne vont pas les rendre très malheureux et qui vont aussi leur apprendre que ça peut compter.
Ça peut exister aussi à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des familles où aller au McDo, c'est interdit par les parents.
Et les grands-parents sont moins stricts là-dessus.
Les grands-parents vont transgresser ça, ils vont le faire quand même. Donc ça participe aussi de la bonne image que les bons parents, que les grands-parents se font à peu de frais auprès de leurs petits-enfants. Mais je veux dire, ça peut être aussi la tenue vestimentaire.
Mais c'est intéressant parce que les enfants ont fait deux modèles,
bien sûr,
oui, exactement.
Leurs parents. Mais c'est ça qui est bien. Ils savent très bien qui est qui, hein. Ils s'y trompent pas.
Et d'où l'importance de la complicité, je veux dire.
Bien sûr.
Je parle de chez les grands-parents permissifs, puisque j'ai l'impression que vous êtes un peu de cet acabit-là.
Moi, je suis
grand permissif. Ils savent très bien qu'après, on rentre à la maison, il va falloir retomber dans ses bottes et que papa et maman vont nous dire non, c'est à McDo.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont assez insupportables quand on les a gardés une semaine seuls et que les parents arrivent, parce que là, ils savent plus très bien qui fait la loi et qu'il faut
ils sont
écouter.
Un peu désorientés.
De même qu'on préfère les avoir sans les parents, il faut
très
le dire quand même, soyons honnêtes.
Alors justement, certains grands-parents aussi peuvent être, aux yeux des parents, trop intrusifs. Comment trouver la bonne distance? Comment réussir à se placer au sein de la famille?
Ça, c'est pas simple. Il faut de la diplomatie, il faut de la psychologie. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce qu'on a très envie de venir en aide à nos enfants. Et aujourd'hui, c'est souvent bien utile. Je veux dire, la situation économique de la génération aujourd'hui en charge est bien moins reluisante que la nôtre. Donc, on peut les aider matériellement. Comment le faire sans sembler réclamer en retour quelque chose, c'est compliqué. Moi, j'ai pas trouvé de solution.
Il faut être disponible comme on peut. De toute façon, si on travaille encore, on a forcément des limites. Hein. On sait qu'on peut pas être la dépanneuse de nounou parce que c'est pas possible. Mais attendre qu'on vous sollicite et puis proposer aussi parfois quelques rituels, des rencontres régulières qui peuvent être organisées et ce qui arrange les parents. Les grands-parents qui travaillent encore.
Les voisins, les voisines, restez avec nous. On parle de vos aînés et puis les futurs grands-parents, si vous ne l'êtes pas encore. C'est vous aussi, les voisins. Tout de suite, Nan von Bois de Mélissa Lavaux sur RFI.
Oui.
des grands-parents dans 7 milliards de voisins aujourd'hui. J'aimerais vous lire le message sur Facebook de Mickey à Lomé, au Togo. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents. Je n'ai même pas de photo d'eux. Du coup, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Alors, quand je vois certains de mes amis avec leurs grands-parents, ça me fait parfois mal d'avoir perdu les miens très tôt. Béatrice Copper-Royer, effectivement, comment combler l'absence de grands-parents qu'on a jamais connus?
Bien sûr, bah déjà en faisant parler les parents, hein, qui eux les ont connus, et en essayant de se les représenter comme ça, s'informer sur leur vie, sur qui ils étaient. Donc je pense que ça, c'est déjà une première façon. Puis on peut aussi se trouver des grands-parents de substitution. Y a des oncles, des tantes de la génération des grands-parents qui peuvent, ou même des amis des grands-parents qui peuvent être des figures d'une autre génération et qui se prêtent à ce rôle-là.
Il y a notamment le système de grands-parents que vous mettez en place à l'école des grands-parents européens.
C'est plus que ça. C'est des grands-parents qui interviennent, par exemple, pour lutter contre la violence à l'école maternelle. On a quoi avec nous? On a des enfants qui n'ont pas de grands-parents. Et quand ces grands-mères arrivent à l'école maternelle pour les avoir toutes les semaines, hein, pour les remettre dans les rails, et qui les accueillent avec des papis, mamies, etc., c'est effectivement des grands-parents de substitution et qui reçoivent encore beaucoup plus qu'ils ne donnent. Hein. Je prêche pour ma chapelle parce que je cherche toujours des bénévoles, mais honnêtement, c'est passionnant à vivre aussi pour des personnes de nos âges que d'être là en proximité de petits-enfants qui ne sont pas les leurs, mais qui, au fond, s'attachent tellement vite et donnent beaucoup autant qu'ils reçoivent. Donc, je crois que la vie est bien faite. Il faut savoir donner quand on n'a pas soi-même la chance d'avoir des grands-parents.
Avec nous. Pose aussi la question du deuil des grands-parents. Comment vivre cette perte dans nos vies. Nous sommes en ligne avec un voisin, Ibrahim, à Abidjan. Bonjour Ibrahim.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Ben voilà, c'est... Moi, ma grand-mère, qui a été ma... Ma grand-mère, c'est... Vraiment, elle a été une grand-mère protectrice. Très protectrice. Voilà. Au niveau du voisinage... Ibrahim, tu ne pouvais pas toucher Ibrahim. Une personne qui touche à Ibrahim, c'est tout un scandale. Et vraiment, elle m'a appris aussi l'empathie. J'ai vraiment appris vraiment à m'aimer avec ma grand-mère. Et étant donné que ma mère était juste à 1 kilomètre de moi, même quand ma grand-mère partait en voyage, puisqu'elle était commerçante, qu'elle me disait, va, pendant mon séjour, reste un peu chez ta mère, mais c'était la catastrophe. C'était impossible, et puis étant donné que je partais à l'école. Donc, vraiment, j'étais plus attaché à ma grand-mère et à ma mère. Et voilà, et aujourd'hui, les deux ne sont même pas de ce monde. Mais c'est bizarre, mais je sens plus la force de ma grand-mère que ma mère. Bon, je vais dire, c'est dommage, mais c'est ce que je ressens, que je dis. Et voilà, elle a vraiment été fréquente dans ma vie.
Et vous êtes triste après cette disparition. Merci Ibrahim pour ce témoignage, Béatrice Copper.
C'est vrai que le deuil des grands-parents, c'est souvent le premier deuil que connaissent les enfants. Et donc, alors évidemment, ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais quand ils perdent leurs grands-parents dans la petite enfance, vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils sont confrontés comme ça à une perte et ils sont confrontés surtout à la réalité de la mort. Et donc, ça peut être, en dehors du chagrin de la perte, ça peut être aussi sur d'angoisse, une espèce de crise existentielle comme ça. Après, ça dépend de la qualité du lien et puis de l'entourage. Mais on voit des grands, grands, grands chagrins autour de la mort des grands-parents.
Justement, je pense, et c'est vrai, c'est vécu ce que tu racontes, mais d'où l'importance de la parole. C'est-à-dire que c'est aussi, quand des petits-enfants perdent leurs grands-parents, il faut en parler de ces grands-parents. Mmh. Et les parents sont bien placés pour rappeler à l'occasion de n'importe quoi, d'un anniversaire, si papy avait été là, voilà ce qu'il aurait fait, voilà comment il se serait comporté. Vrai. D'ailleurs, papy aurait certainement fait le repas, parce que papy faisait toujours les repas. Mmh. Et du coup, on recrée toujours parler, comme on l'a entendu, là, remettre les grands-parents dans leur place, même quand ils ne sont plus là.
Ce qu'il y a d'absolument nouveau au XXIe siècle, c'est que pour la première fois, sans doute, c'est une présence effective de grands-parents qui sont dans la vie. Ils sont dans la vie et ils ne sont plus ceux dont on va bientôt fleurir la tombe ou ceux qu'on va voir le dimanche à déjeuner. Ils sont simplement dans la vie. Ils partagent cette vie avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Les grands-parents, ils ont leur histoire, mais surtout, ils sont là pour transmettre. Et ils racontent l'histoire, la grande histoire et la petite histoire. Et c'est comme ça qu'un petit enfant va pouvoir apprendre les choses mieux qu'en lisant dans un livre d'histoire.
Bonjour, bonjour les grands-parents, les parents de papa, maman. On vient chez vous pour les vacances, vraiment on a beaucoup de chance. On vous gardera dans nos cœurs, les grands-parents du bonheur.
Le psychanalyste Patrick Avran, qu'on vient d'entendre, aborde une question fondamentale pour conclure cette émission, celle de la transmission. Et oui, les grands-parents sont passeurs d'histoire. On a évoqué tout ce qu'ils pouvaient apporter à leurs petits-enfants. Mais il y a aussi une transmission dans l'autre sens. Les petits-enfants maintiennent les aînés dans leur époque, Béatrice Copper-Royer.
Absolument, ils maintiennent. Donc, ils le disaient très bien. Ils transmettent la grande histoire et la petite histoire, puisqu'ils sont inscrits dans une époque, dans des événements qu'ils ont vécu en vrai. Et donc, c'est toujours plus vivant pour leurs petits-enfants. Ils transmettent effectivement aussi l'histoire de leur famille et en première ligne l'enfance de leurs parents. Et puis, ils reçoivent aussi de leurs petits-enfants. Et je trouve que là, on est vraiment à une époque où ils reçoivent beaucoup parce que ça va tellement vite, les nouvelles technologies vont tellement vite, etc., qu'ils peuvent être un peu rapidement dépassés ou pas toujours à flot, puisque ça va, l'évolution est extrêmement rapide. Et donc, leurs petits-enfants sont très, très, très heureux de pouvoir les initier ou les aider à dominer tout ça.
Mais au-delà des apprentissages de la technologie et du numérique, on reçoit tellement de jeunesse à travers eux. Attends, mais c'est
ça maintient vivant.
Un petit enfant
hein.
qui arrive, il nous rebooste. Il y a des gens qui se font insuffler du sang d'ado. Là. Nous, on n'a pas besoin de ça, les grands-parents. Hein.
C'est vrai.
On redevient jeune avec nos petits-enfants. C'est vraiment...
Pierre Antilogus, voilà. Pour le grand-père.
La transmission à rebours qui s'opère, c'est-à-dire du petit enfant à ses grands-parents, c'est aussi le rappel que la vie continue. Et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a tendance à l'oublier à force de vivre. C'est vrai, au fond.
C'est la vie qui ressurgit.
Oui, elle va continuer après soi-même. Il y a une espèce de dépassement de soi. Et c'est très, c'est un sentiment tout à fait mystique, peut-être, je ne sais pas le définir, mais c'est quelque
et
chose qui
et on va finir
regonfle.
Sur ce mysticisme. Merci à vous Pierre Antilogus, Béatrice Copper-Royer, Armelle Le Bigomaco. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Sophia Bédard. Merci aussi à Didier Chérouse et merci à vous les voisins, les voisines pour votre écoute, vos commentaires et vos appels. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide depuis Niamey au Niger à l'occasion du Forum international Jeunesse et Emploi Vert. Quel avenir pour les métiers vert sur le continent africain, quel défi pour les pouvoirs publics. Quant à moi, je vous dis à bientôt les voisins.